history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'émission Les Arpètes.
Je suis Anne-Lise et avec ma co-animatrice Enora, on est très contente de vous présenter ce nouvel épisode.
Dans cette émission, nous allons parler de grossophobie, c'est-à-dire la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes grosses au quotidien. À noter, nous allons utiliser aujourd'hui les mots gros, grosse, grosseur pour ne pas employer des mots qui pathologisent la grosseur comme obésité ou surcharge pondérale. Vous allez très vite comprendre pourquoi et nous y reviendrons sans doute au cours de l'émission.
Tout à fait, et aussi simplement parce que gros, grosse, ce n'est pas une insulte. Bon, la définition de grossophobie qu'on vous apporte est très succincte, mais nous allons très vite l'approfondir, notamment grâce à nos invités qui vont nous aider à déplier ce sujet.
Avec nous aujourd'hui, depuis Bruxelles, Pelfine. Bonjour Pelfine.
Bonjour.
Pelfine, tu es fat activiste, cela veut dire que tu es une personne grosse qui milite contre la grossophobie. Tu tiens le compte Instagram Corps Cool, qui est une véritable mine d'informations et de ressources sur la grossophobie. Tu y publies aussi bien tes propres réflexions que le travail journalistique et, par exemple, artistique aussi, d'autres personnes concernées, militants et ou gros.
Tu as cofondé l'association Fat Friendly avec Caroline Cassie et Sarah Coulon. Cet asso lutte pour l'inclusion des personnes grosses, notamment grâce à une cartographie des lieux accessibles.
Sont avec nous également Lise et Leslie de l'association Pour une Meuf. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Lise, tu es médecin généraliste, Leslie, tu es gériatre et vous faites donc partie de l'association Pour une Meuf, acronyme de Pour une médecine engagée, unie et féministe. Cet asso rassemble des soignants et des soignantes en lutte contre le sexisme et toutes les autres formes de discrimination dans le domaine de la santé et du soin.
Le lien entre grossophobie et médecine engagée n'est peut-être pas tout à fait évident pour vous, auditeuristes, mais vous allez vite comprendre le lien, justement, car une grande partie de la lutte contre la grossophobie consiste à lutter contre la pathologisation de la grosseur et ôter de la tête des gens et du personnel soignant qu'une personne grosse est forcément une personne malade. Mais patience, on va développer ça un peu plus tard.
Le livre que nous avons arpenté pour parler de grossophobie nous a été suggéré par toi, Pelfine. Il s'agit de « Corps rebelle » de Gabrielle Lisa Collard, autrice, journaliste et pigiste. Ce livre regroupe des réflexions sur la grossophobie issues du blog que l'autrice a tenu à partir de 2016, ainsi que des textes inédits. Il est paru aux éditions Québec-Amérique en 2021, et bien que n'ayant pas lu la totalité du livre, je crois pouvoir affirmer sans me tromper que c'est un livre qui brasse beaucoup d'émotions, car la plume de Gabrielle Lisa Collard est aussi drôle qu'acérée.
Comme à notre habitude, nous nous sommes divisé la lecture selon la méthode de l'arpentage, méthode qui consiste donc à déchirer un livre en autant de parties qu'il y a de lectrices, aujourd'hui donc en 5 morceaux. Après lecture de leur partie, les participants ou participantes se rassemblent et racontent ce qu'elles ont appris. Et ça commence tout de suite. C'est encore moi. Effectivement, j'ai commencé la lecture du livre de Gabrielle Lisa Collard par la préface de l'autrice, scénariste et chroniqueuse Manal Drissi. Son propos esquisse la définition de la grossophobie que le premier chapitre de l'essai viendra ensuite compléter. À noter avant tout, il faut accepter que nous sommes tous grossophobes. Gabrielle Lisa Collard dit « On existe tous les jours entouré de gens qui, à différents degrés mais sans aucune exception, ont appris qu'être gros, c'était mal et qu'il ne fallait pas l'être ». C'est quelque chose de potentiellement difficile à entendre et pourtant peu difficile comparé à ceux qui doivent vivre avec la grossophobie chaque jour et font le constat de notre incapacité à se remettre en question. Je cite à ce sujet la phrase très puissante de Manal Drissi : l'amour de soi ne fait pas le poids quand chaque jour qui passe, alors qu'on a toute l'information à notre disposition pour faire mieux individuellement et structurellement, on continue de choisir la médiocrité. Je trouve cette phrase vraiment très puissante. Un deuxième point, Le corps et le poids sont tant un sujet d'obsession dans notre société que, bien sûr, tous les corps subissent une pression immiscée dans chacun de nos cerveaux. Mais pourtant, quand on parle de grossophobie, on ne parle pas des complexes de tout un chacun, et j'apprends qu'il est vraiment essentiel de le comprendre. Je le vois notamment parce que j'ai souvent envie, à la lecture du livre, de faire des parallèles avec mon histoire et ma relation avec mon corps, alors que je ne suis pas grosse. Pourtant, je ne m'autoriserai jamais de tels parallèles aussi grotesques avec une autre discrimination qui ne me concerne pas. De quoi parle-t-on alors ? L'autrice, dans un premier temps, soulève les oppressions et discriminations subies par les personnes grosses. Tous les préjugés négatifs, penser que les grosses personnes sont paresseuses, allergiques au sport, addictes à la malbouffe. Se moquer d'eux dans la vie réelle, sur Internet ou à la télé, quand les gros personnages de fiction sont, par exemple, toujours les bêtas relous qui font que manger. C'est les discriminer à l'emploi, dans le cadre médical, c'est penser que, au fond, ce qui leur arrive est de leur faute et que s'ils tombent malades, c'est de leur faute, toujours. Ensuite, c'est la peur d'engraisser, la peur de devenir gros-grosse. C'est penser que les corps minces sont les meilleurs corps. Et comment ne pas le penser quand ce discours est partout, dans notre éducation, dans la culture, la publicité, dans nos contacts sociaux. La grossophobie va donc plus loin que nos complexes. Elle parle d'un problème systémique, structurel, qui s'invite dans notre schéma de pensée avant qu'on puisse choisir autrement. Les personnes grosses perdent tant en valeur aux yeux de tous qu'être mince, c'est plus qu'un état corporel, c'est une qualité morale. Ne pas aimer le fast-food, c'est Gabrielle Lisa Collard qui le disait, et j'ai trouvé ça si vrai, je ne l'avais jamais pensé. Ne pas aimer le fast-food, c'est presque une source de fierté. Associer la gourmandise aux fruits plutôt qu'au sucre, c'est une source de fierté, c'est fou quand même. Être plus mince qu'un tel, c'est valoir mieux, c'est avoir mieux réussi. Quelque chose d'assez évident aussi, mais que je remarque, c'est combien je trouve détester les gens gros n'est pas un tabou. Comme si mépriser les gens gros, ça s'entendait, ça se pardonnait. Cette haine, elle est libérée, elle est tolérée, elle est finalement encouragée. Parce qu'ils le cherchent bien, ils se font eux-mêmes du tort, parce que c'est dangereux pour la santé. L'argument de la santé masque en réalité beaucoup de grossophobie. Comme tous les mots qui finissent en phobie, en fait, il y a une bonne dose d'ignorance à débunker. Gabrielle Lisa Collard nous invite à, je cite, « lire ce livre en gardant un esprit ouvert, considérer qu'un corps gros n'est pas nécessairement mauvais ou dangereux ». Mon arpentage se termine sur la parfaite discréditation des régimes et leur industrie. Un taux d'échec de 95%, un corps traumatisé qui réagit à la privation comme il réagirait en cas de famine, un facteur de risque de troubles du comportement alimentaire, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de gains de poids futurs. Un peu ironique. Donc mon arpentage s'arrête là et je suis vraiment contente de pouvoir enfin découvrir ce que la suite du livre me réserve grâce à vos lectures. Et il me semble que c'était à ton tour, Lise, de nous transmettre le contenu de ta partie qui venait à la suite de la mienne. Si tu es prête, on t'écoute.
Oui, en effet. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant de lire un morceau de livre. Ça m'a fait apprécier les couvertures cartonnées et le travail des éditeurs et des éditrices, parce que ce n'est pas très pratique de ne pas avoir le livre en entier. Par contre, du coup, ça m'a déculpabilisée pour la prise de notes. J'ai écrit dessus. Donc effectivement, on a une collection de textes courts qui ont été publiés sur le blog de Gabrielle Lisa Collard. J'ai beaucoup apprécié, comme toi, son discours imagé. Elle a un sacré sens de la formule qui sert bien son propos. C'est une autrice québécoise, donc il y a plein d'expressions québécoises. Si quelqu'un sait ce que veut dire hostie, je suis preneuse. Il y a des mots en anglais. Ouais.
Je crois que ça veut dire putain, quoi.
Oui, ben, elle le met partout. Il y a des expressions en anglais, c'est agréable à lire et elle m'a fait rire alors qu'elle traite de sujets qui sont graves, qui sont sérieux. Voilà, donc elle a vraiment un ton corrosif qui sert son propos, je trouve. Elle parle donc, alors dans la première partie, du poids et des discriminations qui lui sont liées, mais elle va aussi parler du corps, des plaisirs qu'il nous apporte, de l'image de nous qu'il rend. Elle parle d'alimentation intuitive. Elle parle aussi de cette manie qu'on a de regarder les autres manger. Elle parle de sa peur de la mort. Elle parle de l'absence de représentation des vieux corps gros dans l'espace médiatique, ce qui trouvait quelque chose de très juste. Elle parle vraiment de son expérience personnelle pour faire un récit universel que j'ai trouvé très intéressant. Et elle montre l'absurdité de l'importance qu'on accorde à l'apparence et à la corpulence dans nos sociétés. Je vous ai choisi un exemple à propos d'Oprah Winfrey, l'animatrice télé américaine, qui, en faisant de la publicité pour du produit amaigrissant, a dit qu'à l'intérieur de chaque femme en surpoids se cache la femme qu'elle sait qu'elle pourrait être. Et donc, Gabrielle Lisa Collard nous dit « Imaginez, vous êtes Oprah. Vous avez accompli ce qu'aucune autre femme, encore moins une femme noire, n'a accompli avant vous. Vous êtes aussi big shot que c'est humainement possible. Mais malgré tout, 6 pouces de suif autour de votre nombril vous séparent du bonheur. En bonne petite femelle, vous avez intériorisé que votre valeur en tant que personne est inversement proportionnelle au nombre de pouces cum que vous occupez. Imaginez que la femme que vous rêvez d'être, alors que vous êtes déjà Oprah, est plus petite du cul. » Ça, je trouvais ça fort, très percutant. Voilà. Parfois, je trouve qu'elle ne creuse pas tout à fait assez, elle ne tire pas assez les ficelles, notamment quand elle parle de l'intersection entre grossophobie et sexisme. Voilà, elle ne va pas tout à fait assez loin, en tout cas dans la partie que j'ai lue. Et après, moi, dans le morceau de livre que j'avais, elle débute le chapitre sur la grossophobie médicale. Et donc là, elle fait un texte d'introduction qui pose des concepts forts. Elle parle effectivement de la différence entre poids et santé, que c'est vraiment deux choses différentes. Elle décrit la grossophobie intériorisée des soignants et des soignantes. Très bien, j'ai trouvé. Elle explique que ce serait la grossophobie qui expliquerait la mortalité prématurée des personnes grosses et non pas leur corpulence. Et puis elle rappelle que la dignité dans le soin, c'est non négociable. Et ça m'a donné tout à fait envie de lire la suite de son propos.
Merci Lise. Du coup, pour écouter un peu la suite du propos, on va laisser la parole à Leslie.
Très bien. Donc, effectivement, le début de ma partie était la fin d'un article qui traite de du manque de formation pour les personnels soignants, soignantes, en ce qui concerne l'interaction avec les corps gros, ce qui a des conséquences sur la santé des personnes concernées, des conséquences qui peuvent être dramatiques. Le chapitre suivant, enfin le texte suivant, c'était surtout des témoignages donc de ses lectrices, en fait, des lectrices de son blog qu'elle rapporte dans le livre. Et il y a un témoignage en particulier que je vais vous lire. C'est donc une femme grosse qui est engagée dans un processus de procréation médicalement assistée et qui, au cours de ces démarches, doit voir un endocrinologue, donc un médecin spécialiste des hormones. L'extrait donc du témoignage est... Il m'a dit que je ne pouvais pas tomber enceinte parce que j'étais tellement grosse que c'est certain que mon chum ne voulait pas coucher avec moi. Il a expliqué à mon amoureux, qui m'a choisi avec cette shape-là, et je tiens à préciser qu'on a une vie sexuelle parfaite, que même s'il me trouvait dégueulasse, il devait faire un effort pour me baiser parce que les traitements de fertilité, c'était comme si on lui enfonçait un gros dildo en métal dans le cul. Bon. Voilà, donc des choses excessivement violentes et il y a beaucoup de témoignages de toute façon qui sont vraiment d'une très grande violence. Mais là, doublé de vulgarité, j'ai trouvé que c'était particulièrement notable et important d'en parler. Donc tous les témoignages sont très intéressants et pour le texte suivant, c'était aussi passionnant. C'est « Petite histoire de l'épidémie d'obésité ». Tout ça entre guillemets, bien sûr, avec une vision donc de Gabrielle Lisa Collard sur le mot obésité, la création de cette maladie, toujours entre guillemets, qui est l'obésité, et la rhétorique, je dirais, de l'épidémie, et en particulier aux États-Unis, qui se serait répandue avec cette histoire de. Enfin, en fait, cette panique morale, c'est le terme qu'elle utilise, qui en fait a été basée principalement sur des lobbies des entreprises qui veulent vendre des produits amincissants et des régimes. Et voilà, avec la proposition de Gabrielle Lisa Collard de voir les choses un peu différemment, qui est à la fois intéressante et assez drôle. Et donc, je vais juste lire un tout petit encore passage en disant, en parlant du fait qu'on pèse en moyenne plus lourd maintenant qu'il y a 50 ans, elle rappelle que c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que non, survivre un mois sur deux patates avec sa famille de 12, se mettre de la crème au radium dans la face ou battre sa femme en toute impunité, c'était pas super non plus. Le bon vieux temps n'était pas si bon que ça, et le fait de ne plus devoir marcher 12 km dans la neige, en galoche, pour aller à l'école de rang pisser dans un bucket, n'est pas totalement négatif.
Ah non, tellement.
Voilà.
Et quand on disait qu'elle avait une plume acérée, vous en avez un extrait. Merci Leslie, c'est tout bon pour toi.
Merci, on va donner la parole à Pelfine. Du coup, je le rappelle, avec nous depuis Bruxelles, qui milite contre la grossophobie, qui est à l'origine du compte Instagram Corcool et cofondatrice de l'association Fat Friendly. Est-ce que tu es prête, Pelfine?
Oui, je suis prête.
Vas-y.
Avant de commencer, je voulais préciser que du coup, moi, le livre, je le connais. Donc, enfin, voilà, je pense que ça me donne un rapport à cet arpentage un petit peu différent. Ouais. Mais ma partie, elle commençait par un mini bout de texte qui est la fin de son écrit sur les facteurs de risque. Et comme c'est un de mes textes préférés et que je trouve que ce qu'elle y dit est hyper important, même si j'ai que la toute petite fin et que j'ai peu de temps pour restituer tout ce que j'ai lu, j'ai envie de l'évoquer.
Allez.
Parce qu'elle parle de comment le fat activisme lui a sauvé la vie et comment elle doit tout à ce mouvement. Et c'est une vision que personnellement je partage très fort. Et en fait, c'est une réponse aux gens qui se sentent obligés de dire partout où une personne grosse existe qu'elle doit faire attention aux fameux facteurs de risque parce qu'elle va mourir. Et elle affirme que s'aimer inconditionnellement et lutter pour le droit d'exister, c'est ça qui nous empêche de mourir. Je m'englobe dedans, évidemment. Pas les gens faussement bienveillants qui viennent partout nous emmerder avec les facteurs de risque. Donc voilà, j'ai juste quelques phrases sur ce texte, mais comme elle me semblait importante, j'en dis quelque chose. Et ensuite, moi, j'ai tout le chapitre 3. J'avais tout le chapitre 3 qui parle de la représentativité, de la culture et des médias, être gros dans l'œil du public. Dedans, en fait, elle répond en différents textes à différentes façons dont on parle du corps gros dans les médias. Je ne peux pas parler de tout, mais j'ai gardé certains exemples. Et elle commence en expliquant comment la culture et les médias, ça crée et ça renforce les standards de beauté et influence notre manière de percevoir, hiérarchiser et juger les autres en fonction de ce qu'on considère comme étant désirable ou non. Elle rappelle que la culture, ça a ce pouvoir de nous faire sentir compris et validés, ou en fait au contraire invisibles et nuls. Et elle raconte qu'elle, elle ne s'est jamais sentie représentée dans la culture populaire, et c'est un sentiment que je partage. Et elle précise aussi que c'est le cas de beaucoup de personnes, pas uniquement les personnes grosses, mais toutes les personnes en fait qui ne sont pas minces, blanches, hétérosexuelles. Dans la culture, les gros, enfin dans les productions culturelles, dans les médias, les gros et les grosses, ça ne va jamais être les héros, les membres de la bande d'amis cool ou de l'équipe de super-héros. Mais par contre, ils sont surreprésentés dans les rôles de genre de bully, de méchant, ou dans la télé-réalité où la finalité, c'est de faire perdre du poids. Ils vont toujours être gloutons, dénués de sex-appeal, ou alors au contraire, ornis, mais d'une manière un peu horrible et ridicule. Ils vont être la meilleure amie laide, ils sont sales, grossiers. Et surtout, ils sont toujours définis d'un bout à l'autre par leur poids. Et elle explique comment ça a solidement teinté sa vision du monde et d'elle-même. Elle a longtemps eu l'impression qu'elle finirait seule et triste si elle ne maigrissait pas. Et elle dit cette phrase que je trouve hyper forte et touchante et triste en même temps. Donc je la cite. « J'ai été la première étonnée quand, à l'âge adulte, j'ai réalisé qu'on pouvait être grosse, puis être aimée, avoir une vie sexuelle, une carrière, des amis. » Imaginez ce que ça fait à l'image de soi de passer une grande partie de sa vie sans savoir ça. Voilà, je trouve ça assez touchant, mais aussi parce que je partage... J'ai vécu ça aussi, donc ça me touche particulièrement. Et en fait, elle conclut cette partie en disant qu'il faut laisser les personnes grosses se raconter elles-mêmes, leur tendre le micro, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de diversité, d'inclusivité, mais en fait c'est toujours les mêmes personnes qui produisent, réalisent, créent, juste ils vont parler de d'autres personnages mais ils sont pas concernés par ces choses-là et je pense que, et elle pense aussi que les personnes concernées sont les mieux placées pour se raconter. Et ensuite, c'est pas un texte qui vient directement après, mais elle parle dans un texte qui s'appelle « Faire la paix » de choses que je trouve en lien, parce qu'elle rappelle que on aime beaucoup croire que nos goûts, ils sont innés, qu'ils sont propres à chacun de nous et tout ça, alors qu'en fait, on est un produit de notre environnement et d'un environnement qui actuellement est quand même majoritairement raciste, ageiste, capacitiste, grossophobe, et que nos préférences, elles ne sont pas imperméables à ça. Et du coup, elle propose d'entraîner son regard en l'exposant à plus de diversité. Et elle raconte comment elle a vu son regard sur les corps gros qu'elle voyait jamais et qu'elle avait appris à trouver les évoluer. Et c'est passé de quand elle voyait une personne grosse, elle disait ouais, je pourrais jamais, sous-entendu, m'exposer de cette façon comme le fait cette personne, à aujourd'hui où elle a tellement habitué à son regard à voir de la diversité et des personnes grosses qu'elle remarque à peine la différence. Et j'avoue que moi, c'est un glissement que j'ai aussi vu s'effectuer entre l'ouverture de mon compte Instagram et aujourd'hui, où j'ai tellement été exposée à de la diversité des corps gros qu'il y a un truc qui s'est vraiment normalisé et qui m'a apaisée dans mon rapport au monde et à moi-même. Elle parle d'un exemple de traitement médiatique qu'elle a trouvé hyper violent et qui est hyper violent. Le texte s'appelle « Tu méritais tellement mieux, lettre d'amour et d'excuse à Mama Cass ». Et je trouve que cet exemple est hyper parlant et violent et que pas tant de gens de notre génération le connaissent, donc je trouve que c'est bien à raconter. Mais Mama Cass, c'était la chanteuse du groupe The Mamas and the Papas, et elle était grosse, et elle a été traitée par le monde et les médias comme de la merde toute sa vie en raison de son poids, et elle a passé toute sa courte existence à gober des amphétamines, faire des régimes, perdre et reprendre des centaines de kilos. Et elle est morte à 32 ans, seule dans une chambre d'hôtel, à une période où elle jeûnait 4 jours par semaine. Et il y a une légende populaire qui s'est faite à ce moment, parce qu'une des premières déclarations de la police, c'est qu'il y avait un sandwich entamé qui a été trouvé dans sa chambre au moment où on l'a retrouvée morte. Et donc là, tous les médias ont dit, bah voilà, elle est morte étouffée, en s'étouffant avec un sandwich et tout. Et donc il y a eu toute une narrative super grossophobe et super violente sur sa mort. Il se trouve qu'en fait, elle est décédée d'une crise cardiaque qu'on a aussi accordée à sa grosseur, alors qu'en fait, prendre des amphétamines toute sa vie pour maigrir, sûrement plus responsable d'une crise cardiaque que le poids en soi. Mais donc voilà, cette histoire, elle raconte bien la violence de la grossophobie, comment après une vie entière à se faire emmerder, elle a continué à être fat shamée dans la mort. Et je trouve ça chouette que Gabrielle raconte son histoire, je trouve que c'est important. Et ensuite, il y a le début du chapitre 4 qui s'appelle « Mettre l'épaule à la roue, comment soutenir la lutte contre la grossophobie ». Et là, je n'ai que le début, mais dans ce début, elle évoque comment, même si le mouvement body positive a pris de l'ampleur, il n'a pas changé grand-chose pour les personnes les plus à l'extrémité du spectre de la grosseur. Et qu'il y a une différence en être, par exemple, complexé par son mono-sourcil parce que les standards de beauté sont ridicules et devoir rouler 5 heures pour trouver un manteau à sa taille pour la raison principale qui est avoir chaud. Et on ne parle pas de trouver un manteau beau ou quoi, juste avoir chaud. Et donc, elle parle de la récupération du capitalisme, enfin du body positivisme par le capitalisme. Et voilà. Et ensuite, ma partie s'arrête là.
Merci beaucoup Elphine, je vais prendre le relais pour la toute dernière partie. Et ça tombe bien du coup que tu aies terminé sur comment soutenir la lutte, parce que c'est ce dont j'avais prévu de parler. Il y a beaucoup de choses dans cette dernière partie, mais j'ai décidé de vous résumer seulement la partie qui s'appelle « Comment être un ou une meilleure alliée ». Déjà primo, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'elle termine par ça, parce qu'en tant que personne privilégiée, en général, c'est très facile de prendre conscience d'une oppression par une lecture et de terminer le bouquin en mode « Oh là là, c'est vraiment horrible ce que vivent ces personnes » et de ne pas faire suivre des actions à cette prise de conscience. Sauf qu'en terminant son livre avec cette espèce de petit mode d'emploi, Gabrielle Lisa Collard ne nous laisse pas le choix que de transformer l'essai, si vous me pardonnez l'expression, et de passer à l'action. Et je le trouvais bien ce passage aussi parce que ce mode d'emploi, il est transposable pour un peu toutes les oppressions, pour être un ou une bonne alliée face à toutes les autres oppressions. Donc en gros, dans cette partie, pour être un ou une bonne alliée, il faut, petit 1, écouter. Écoutons les personnes concernées et ne remettons jamais leurs paroles en question et ne minimisons pas leurs expériences. Petit 2, s'informer, informons-nous au lieu de répéter ce qu'on nous a toujours dit par paresse intellectuelle, comme par exemple qu'être gros, c'est être en mauvaise santé, on l'a dit et redit dans cette émission. Petit 3, prenons conscience de notre propre grossophobie, parce qu'on ne peut pas lutter contre une oppression sans admettre qu'on fait partie du problème et sans avoir saisi où ça se loge, à quel endroit ça se loge en nous. Parce qu'on a tous et toutes grandi dans le même système dégueu, on est toutes et tous sexistes, grossophobes, racistes, validistes, homophobes et j'en passe. Le tout, c'est d'être honnête avec nous-mêmes et d'examiner nos automatismes de pensée pour les transformer. Même si c'est pas toujours agréable, c'est bien le minimum qu'on puisse faire en tant que personne ayant des privilèges. Là, je parle de mon point de vue, enfin de ma position de personne privilégiée. Petit 4, arrête de penser juste à toi. On le répète encore une fois pour être sûr que ça rentre bien, la grossophobie et la pression de se conformer aux standards de beauté sont deux choses qui existent en parallèle, mais une seule de ces deux choses est une oppression systémique. Donc cessons de ramener nos complexes sur la table, ça n'est pas le propos. J'aime beaucoup les deux derniers points de ce mode d'emploi du bon allié, qui sont très pertinents à mon avis pour toutes les oppressions et qui sont « arrête de rire et gère ton entourage ». Qu'on arrête de rire aux blagues grossophobes, racistes, sexistes, validistes, agistes et qu'on gère son entourage en leur faisant remarquer qu'elles ne peuvent pas faire des blagues ou des remarques oppressives, même si c'est pas toujours agréable de passer pour le ou la wokiste de service dans un repas de famille. Encore une fois, c'est la moindre des choses quand on est privilégié de reprendre ses proches. Et si jamais vous avez un peu peur ou honte d'être relou, je vais vous lire une petite phrase de Gabrielle Lisa Collard qui m'a marquée, que j'avais surlignée dans la partie « Gère ton entourage ». Ouvrez les guillemets. « Au risque d'être cheesy, peut-être que réprimander ton petit cousin au souper du jour de l'an va l'empêcher de dire la chose qui pousserait le petit gros de sa classe à avaler toute la bouteille de pilules dans 6 ans. On ne sait jamais, tous les petits moments comptent, c'est l'accumulation qui érode. » J'aime beaucoup cette phrase, c'est l'accumulation qui érode, je la trouve très puissante et juste. Et de manière générale, je trouve que c'est un peu la force de ce livre qui réside vraiment dans la façon dont l'autrice a de synthétiser avec beaucoup de justesse des idées et de toujours les compléter avec des petites piques ou ce genre d'images très frappantes et débordantes d'empathie qui marquent. Je trouve que c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée par ses formulations. Voilà, c'est tout pour ma partie. J'espère que vous avez bien pris des notes sur comment être un ou une bonne alliée et surtout à rester avec nous parce qu'on va pouvoir interroger nos invités pour développer un petit peu plus autour du sujet de la grossophobie. Et avant ça, on se repose un petit peu et on apprécie le morceau « Corps » de la chanteuse Ise.
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tout ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête.
Vous êtes de retour sur l'émission Les Arpètes et vous venez d'entendre le titre « Corps » de Iseult. Alors oui, d'ailleurs, tu as dit Ise, moi j'ai toujours dit Iseult. Est-ce que quelqu'un sait ?
Iseult.
C'est Iseult.
Ok.
Iseult est une autrice, compositrice, interprète qui est souvent revenue sur la difficulté d'évoluer dans son métier en tant que femme noire et grosse. Nous venons avec nos invités. Excuse-moi, j'ai pris ta partie, Nora. Je coupe, c'est à Nora.
Nous venons avec nos invités, Lise, Leslie et Pelfine, de mettre en commun notre lecture du livre Corps Rebelle de Gabrielle Lisa Collard. Et nous allons désormais pouvoir passer à la partie discussion de notre émission.
C'est oui. Quoi les élections régionales ? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
D'un point de vue médical, il y a beaucoup de chemin à parcourir encore, aussi bien dans la manière dont les personnes grosses sont accueillies et traitées dans les milieux du soin que dans la façon dont le corps médical alimente les croyances autour de la grosseur comme maladie et continue ainsi de légitimer la grossophobie systémique. On en a un petit peu parlé aujourd'hui, Leslie et Lise, vous qui avez une vision plutôt de l'intérieur, est-ce que vous observez des évolutions ? Et toi, Pelfine, est-ce que tu, depuis le début depuis que tu as commencé à militer, est-ce que tu vois des évolutions ou est-ce que c'est encore trop lent, j'imagine ?
Si je fais le choix de me fier que, par exemple, nous, dans l'association, on forme le personnel médical ou les centres de planning familial ou les maisons médicales à une autre approche de la grosseur, des liens entre grosseur et santé. Donc, si je me fie aux gens qui viennent dans ces formations et tout, alors oui, je peux dire qu'il y a des choses qui évoluent, qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet. Mais si je suis honnête, je dirais que pas trop. Et que, en fait, je trouve qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant en ce moment parce que, à la fois, on parle de grossophobie, on parle du fait que perdre du poids, c'est pas si simple, que, on va parler de grossophobie, des violences médicales et du fait que perdre du poids, c'est pas si simple. On parle peu du fait que, en fait, faire des liens directs entre poids élevé et mauvaise santé, c'est pas forcément judicieux. C'est encore un autre step dont on parle pas beaucoup, je trouve. Mais dans le même temps, en ce moment, il y a un truc qui peut paraître anodin pour les gens qui ne s'intéressent pas trop à ces sujets, mais il y a l'arrivée sur le marché d'énormément de médicaments pour faire maigrir, qui arrivent avec, qui sont poussés par des lobbies, des laboratoires pharmaceutiques, qui construisent un nouveau discours sur la grosseur, enfin pas un nouveau discours, mais en tout cas qui réaffirme avec des très gros moyens financiers et une omniprésence un certain discours sur la grosseur, qui est l'idée que, alors oui, vous êtes gros, c'est pas de votre faute, donc ça reprend une partie des discours anti-grossophobie,
ah ouais.
Mais ça dit, c'est pas de votre faute, pourquoi ? Parce que la grosseur est une maladie, et puisque c'est une maladie, il faut prendre nos médicaments, et donc, et vraiment ce discours-là, enfin j'ai l'impression que tous les progrès qu'on avait faits dans le fait d'amener de la nuance sont contrecarrés par ce discours qui arrive en masse où j'ai l'impression qu'on va pas faire le poids parce que c'est des discours soutenus par des multinationales avec tellement d'argent, tellement d'investissement dans la com, tellement de, enfin on voit dans les, enfin par exemple l'OMS sort des rapports sur des rapports, des conseils sur comment prendre en charge, par exemple, l'obésité tous les ans. Et on voit que dans les gens qui ont aidé à construire ce rapport, il y a des associations qui sont en fait des associations du laboratoire Novo Nordisk, qui est un laboratoire qui crée des médicaments pour maigrir. Donc en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a tout ça qui se mélange, qui, si je suis honnête, ne me donne pas beaucoup d'espoir. Novo Nordisk, ça a dépassé en capitalisation boursière, par exemple, LVMH. Enfin, c'est vraiment des énormes enjeux financiers internationaux. Voilà.
Oui, c'est vrai. Je lisais dans le livre, d'ailleurs, que, alors, elle parlait des régimes en étant bien consciente, Gabrielle Lisa Collard, que c'était un peu dépassé. Hein. Effectivement, maintenant, on est sur d'autres discours. Mais elle disait qu'effectivement, les lobbies de l'industrie du régime était celle qui finançait les études.
Et ça, c'est fou, je trouve, quand on commence à s'intéresser à ça. Enfin, il y a vraiment l'idée que la médecine, c'est une science dure, que les recherches, c'est forcément neutre. Que, voilà. Alors qu'en fait, des études, on peut en trouver qui disent tout et leur contraire. N'importe quel rapport, il faut vérifier qui est derrière ce rapport, quels sont les conflits d'intérêts. Enfin, et quand on commence à s'intéresser à tout ça, sur le sujet de la grosseur, on voit vraiment que... ben que le discours actuel il est construit en partie par des laboratoires pharmaceutiques qui ont des intérêts financiers très importants dans le fait de continuer à installer la grosseur comme une maladie. Sans vouloir être complotiste, c'est vraiment très...
Ah ouais, je pense que c'est justifié.
Oui, pour ce qui est de la vision... entre guillemets, de l'intérieur, en tout cas, de l'autre côté, j'allais dire. Je pense que c'est effectivement pas du tout satisfaisant, c'est clair, et même assez peu encourageant, les évolutions qu'on peut constater. Parce que, comme disait très très bien Belfine, effectivement, si on prend les gens qui sont... sensibilisés, qui vont déjà être militants, militantes par ailleurs, qui vont s'intéresser à la question et essayer de voir les choses différemment. On a l'impression qu'en fait, un peu individuellement, il y a des bonnes démarches et des choses qui se font de positives, ce qui est déjà ça, si on peut dire. Mais le problème, et c'est bien ce qui est décrit avec ces histoires de lobby pharmaceutique, etc., le problème, c'est que c'est un système. Comme là, on rapporte ça au capitalisme avec les lobbies pharmaceutiques, etc. Mais en plus, c'est aussi un système, enfin, c'est un système institutionnel. Et je pense qu'en fait, on a beau, moi, je me rends compte, être soignant, soignante et... essayer d'être, enfin, être sensibilisé, essayer d'être de bons alliés, de bonnes alliées, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vrai que comme c'est le système est tellement violent, lui, envers les personnes grosses, et tellement c'est tellement institutionnalisé parce que c'est dans nos cours depuis J1 qu'on apprend qu'on apprend à associer, comme on disait, la grosseur avec la mauvaise santé. Et donc, après, essayer de se dire « Ah, mais ce que j'ai appris dans mes cours, c'est faux, il faut revenir dessus, il faut réfléchir, il faut chercher les informations plus loin. » Et c'est des démarches qui sont plutôt individuelles et pour le moment, pas encore élargies, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas encore, c'est pour ça que c'est loin d'être suffisant et que c'est difficile de changer les choses.
J'avais l'intuition en me renseignant aussi que c'était, alors peut-être que je vais dire une bêtise, mais par rapport à d'autres oppressions, j'avais l'impression que la grossophobie était plus était très très présente chez les personnes grosses aussi. Même si il y a des personnes il y a des femmes qui sont sexistes, etc. J'avais l'impression que c'était qu'il y avait beaucoup de grossophobie internalisée chez les personnes grosses aussi, ce qui peut-être ralentit. Enfin, du coup, il y a peut-être moins de personnes qui militent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pétuline.
En effet, je pense qu'il y a beaucoup de grossophobie intériorisée chez les personnes grosses. Et je pense que ce qui ralentit le fait qu'elles militent, c'est aussi parce que, en fait, pour se mettre à militer, il faut. Enfin, j'ai l'impression que. Par exemple, il y a des mouvements genre de fierté LGBTQI+, de fierté noire. Enfin, à un moment, il faut arriver à se dire, OK, j'aime ce que je suis, je mérite d'exister, j'ai le droit de militer pour mes droits, quoi. Il faut pouvoir affirmer ça pour commencer à militer. Et comme n'importe quelle personne grosse qui commence à exister sans s'excuser d'exister, on va lui dire « tu fais l'apologie de l'obésité, c'est pas normal, tu vas mourir, c'est une honte, nan, tout ça ». Et c'est difficile en fait de faire de passer ce pas, de dire en fait si j'ai le droit d'exister et plus que ça je vais militer pour mes droits. Il faut en effet avoir dépassé le stade de la honte et de la haine de soi au moins un tout petit peu. Il faut pas forcément s'aimer, mais il faut au moins se dire ok, en fait je mérite les mêmes droits que les autres. Et la même dignité. Et je pense en effet qu'il y a beaucoup de personnes grosses qui ne passent pas ce stade tant la société est ultra violente avec elle. Et vraiment, c'est incroyable. Partout où je trouve les réseaux sociaux, c'est un très bon exemple, enfin, très bon endroit pour constater ça. Une personne grosse qui juste va montrer ses fringues, elle va même pas parler de lutte contre la grossophobie, de quoi que ce soit. Elle va juste montrer ses fringues, montrer sa tenue. Elle va recevoir des dizaines de commentaires qui lui disent: tu fais l'apologie de l'obésité, c'est pas OK, tout ça. Donc, pour moi, c'est un vrai frein et on en parle beaucoup entre militantes de cette idée de faire naître une fierté grosse. Et il y a énormément de militantes anti-grossophobie qui vont dire, qui vont passer pas mal de temps à dire oui, nous, on ne fait pas l'apologie de l'obésité, tout ça, à se justifier. Alors que moi, je trouve que c'est contre-productif. Moi, en soi, je n'ai pas de problème à faire. Si on considère que. En fait, on peut voir de la beauté dans tous les corps et que les corps gros sont pas forcément des corps malades par essence. En quoi ce serait grave, entre guillemets, de faire l'apologie de l'obésité? Enfin, en quoi ce serait grave de dire aux gens, bah, en fait, si tu as envie de rester gros, tu peux rester gros. Mais ça, quand moi je dis ça aux gens, ça leur fait péter un câble. Et pourtant, je pense que c'est important de dire ça et c'est important de pas perdre du temps à dire non, on n'encourage pas les joueurs, gens à rester gros et tout. Enfin, si, enfin, c'est pas qu'on les encourage, c'est juste qu'on leur dit, ils ont le droit de rester comme ça s'ils veulent rester
Ouais,
comme ça.
et arrêter de lutter en.
Ouais.
Ouais.
Ouais, perdre du temps à émettre des contre-discours au lieu de pouvoir diffuser votre discours à vous, quoi.
Ouais, c'est ça, puis des contre-discours qui rassurent l'ordre établi, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment dire non, vous inquiétez pas, on lutte, mais pas trop, promis. Bah.
Ouais, c'est ça. L'argument de la santé est tellement fort, mais c'est un truc de fou. Enfin. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ça parce que c'est vraiment pas glorieux, mais je l'avais encore. Enfin, j'ai côtoyé des médecins il y a une petite année et c'était vraiment pas beau à voir comme discussion et je les pardonnais aisément, malheureusement, sous l'argument de la santé en considérant qu'être gros, par exemple, en faisant un parallèle pour comparer être gros et fumer, par exemple. Comme s'il y avait une similarité, comme s'il y avait un. C'est. Enfin. Je trouve ça fou d'avoir mis si longtemps à réaliser que cet argument de santé, il est si fort et si dur à dépasser.
Mais c'est marrant parce que l'argument de fumer, pour moi, il est quand même utile pour faire réaliser certains trucs à certaines personnes, du genre, en fait, on ne pose pas le même regard de dégoût sur les fumeurs que sur les personnes grosses. Ça, en général, les gens qui font genre, ils s'intéressent à notre santé, de leur faire observer ça, des fois, ça les aide à prendre conscience qu'en effet, ils ne s'inquiètent pas que de la santé des personnes grosses. Il y a aussi quelque chose derrière de l'ordre du dégoût. Mais en effet, ce parallélisme, outre pour faire comprendre ça, il est horrible. Mais ça parle aussi de comment on veut responsabiliser les gens pour de leur santé. Et puis les responsabiliser, c'est aussi envisager de les faire payer pour leur santé, tout ça. Enfin, il y a tous ces discours-là aussi
Ouais,
qui viennent derrière.
c'était terrifiant. Lise, tu voulais dire quelque chose?
Oui, bah, sur le tabac, justement, il y a des personnes qui fument et qui ont des problèmes de santé suite à ce tabagisme. Enfin, en fait, les gens, ils restent empathiques. Une fois que vous avez déclaré une maladie grave à cause du tabac, que vous continuez, que vous arrêtez de fumer, en fait, la plupart des personnes sont empathiques avec vous. Vous avez une maladie grave, c'est quand même pas de bol. Là, je trouve que vraiment l'argument de santé, pour les personnes grosses, il est toujours. En fait, on a tous des comportements tous les jours qui sont pas bons pour notre santé. Soyons enfin honnêtes, on a des comportements qui sont bons pour notre santé, on en a qui sont pas bons pour notre santé, c'est normal, c'est la vie. Et on a plus ou moins de chance et plus ou moins, enfin voilà, on a des problèmes de santé qu'on a. Mais en aucun cas, ça empêche de prendre les gens enfin, en charge dignement le fait d'être malade ou de ne pas l'être, le fait que sa maladie soit liée à des comportements, soit évitable ou pas. En fait, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire dans la discussion. notamment dans la discussion quand c'est des soignants qui parlent. Il y a un moment où, quand on est soignant et soignante, on prend en charge des personnes malades. C'est un peu le deal quand même, quelquefois. Si vous n'aimez pas les gens malades, il faut faire un autre boulot, quoi.
Ouais.
Ouais. Mais enfin, moi, je trouve qu'il y a un moment qui a été vraiment très parlant sur ça, c'est le Covid. Et comment dans les médias, donc les personnes grosses étaient considérées comme personnes à risque, comme les personnes âgées. Et dans les médias, il y avait vraiment, on parlait des personnes âgées en mode personnes vulnérables, il faut les protéger, tout ça. Alors que les personnes grosses, il y a vraiment eu des séquences sur des chaînes d'infos nationales qui étaient vraiment horribles, de médecins qui disaient, de personnes grosses filmées à leur insu parce que elles sont inconscientes, donc elles n'ont clairement pas donné leur consentement pour cette séquence-là, où elles sont filmées et les médecins disent « vous voyez, les personnes grosses, elles sont en train de mourir, mais vraiment avec un ton, elles l'ont bien cherché, tout ça. » Enfin, j'ai trouvé que c'était un moment où on a vraiment vu la différence d'empathie entre deux populations considérées comme plus vulnérables face au virus.
C'est là qu'on voit vraiment que c'est une question de haine libérée.
Tolérée dans les médias.
Il y a des études qui posent l'hypothèse que la surmortalité des personnes grosses pendant le Covid était plus liée à la grossophobie médicale et à des retards de prise en charge qu'à leur état de santé ou à la gravité des pathologies qu'elles pouvaient, des Covid qu'elles pouvaient faire en l'occurrence. Donc c'est vraiment un double tranchant parce qu'à chaque fois les conséquences de la grossophobie, on les remet aussi sur à la responsabilité des personnes grosses, quoi. Tout est de leur, enfin, tout ce qui vous arrive, y compris le fait que vous soyez mal prise en charge par notre système de soins, c'est de votre faute.
Comme les médicaments, je pense que c'est sur ton Instagram que j'ai découvert ça, Pelfine. Certains médicaments qui sont pas qui sont testés que sur des personnes minces et du coup qui sont pas efficaces ou pas aussi efficaces sur des personnes grosses. Et ça m'a fait penser, je pense, ça devait être les ceintures de sécurité qui, à la base, étaient testées que sur des hommes de taille moyenne et pas du tout sur des femmes. Et quand on pense à ça, c'est totalement absurde. Mais par contre, les médicaments restent encore pas testés sur différents types de corps. Et donc ça aussi, ça, j'imagine que ça, c'est un facteur aggravant pour la santé des personnes grosses, quoi.
Ça rejoint un peu ce que disait Pelfine tout à l'heure sur les sciences dures et la neutralité des sciences, sur lequel c'est quand même intéressant de discuter de la neutralité de qui que ce soit et d'une quelconque science en réalité, qui on le sait maintenant quand même, la prétendue neutralité de beaucoup de sciences et de beaucoup d'études, c'est en fait le point de vue d'un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, mince, valide. Et donc, ça marche aussi, en fait, pour les études médicales. Et toutes les minorités, là, pour le coup, sont très mal représentées dans les études en général, dans les études sur les médicaments et dans les études, les essais cliniques, etc.
Et bien, sur ces bonnes paroles, on va terminer cette partie de discussion. Merci pour vos réponses et pour ces échanges. On est très chanceuse de vous avoir réunis aujourd'hui pour apprendre de vos combats respectifs. Et on va faire une petite pause.
Tout de suite avec le titre Insomnia Party de Poppy Fusée. C'est parti. It's 2 a.m. and I'm still not better. One more episode and I'll recover. My friends are texting me, they want to celebrate. But the real party is in my head. Is it early? Is it late? Time posting mindless stuff I say I hate.
C'était Insomnia Party de Poppy Fusée sur l'émission Les Arpètes sur 92 FM. Où nous parlons aujourd'hui de grossophobie avec nos trois invités, Lise et Leslie de l'association Pour une Meuf à Nantes et Pelfine du compte Instagram Corps Cool et de l'association Fat Friendly.
Malheureusement, notre émission se termine, mais il nous reste un petit peu de temps afin d'échanger des références culturelles, audiovisuelles, artistiques et autres autour du sujet de la grossophobie.
À la discothèque.
Et les discothèques.
C'est bébé. Un, deux, trois, quatre.
Alors, y a-t-il des ouvrages, films, pièces de théâtre, tout ce que vous voulez, que vous voudriez partager? Et peut-être même, enfin, pas forcément sur le sujet de la grossophobie, mais aussi peut-être des œuvres où les personnes grosses sont représentées sans que ce soit pour autant le sujet principal de l'œuvre, puisqu'on parlait de sous-représentation des personnes grosses dans le milieu de la culture. Qui veut nous partager quelque chose? Pelfine, peut-être, vas-y.
Ok. Moi, j'avais envie de parler d'un livre qui s'appelle Fat Activisme, d'une personne qui s'appelle Charlotte Cooper. Charlotte Cooper, c'est une chercheuse et autrice, et elle fait un gros, gros travail d'archivage de notre lutte que moi, je trouve assez remarquable. Malheureusement, c'est un ouvrage qui n'est pas très dur. Pas traduit, comme en fait énormément des livres qui parlent de grosseur et de fait activisme. C'est d'ailleurs un truc qui me saoule un peu. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même énormément de livres féministes qui sont édités, traduits, et c'est trop chouette. Mais je suis assez triste de constater que personne n'édite ou ne traduit rien sur la grossophobie. Alors qu'il y a des best-sellers, genre aux États-Unis ou au Canada, même en Angleterre, qui ici, on ne leur donne aucun écho. Je trouve ça très triste et je pense que, et c'est marrant parce qu'elle en parle dans son livre, ça parle beaucoup de, en fait, le fat activisme. Chaque nouvelle vague ignore presque celle d'avant parce que, comme personne est traduit, édité, publié, avoir accès aux textes fondateurs, tout ça, c'est difficile. Et donc on stagne beaucoup et on n'avance pas très vite. Donc voilà, j'avais envie de parler de Charlotte Cooper.
Moi j'avais noté le podcast, l'épisode de du podcast à soi, Le Gras et Politique. Je l'ai trouvé très complet et très très intéressant. Et sinon, alors j'ai lu le livre « On ne naît pas gros » de Gabriel Dédier, qui, en fait, moi, m'a vraiment permis de saisir l'ampleur des violences que peuvent subir les personnes grosses confrontées au corps médical, parce que dans son livre, elle traite beaucoup de la chirurgie pour personnes grosses, de chirurgie bariatrique, etc. Mais en tout cas, moi, de point de vue de personne non grosse, ça m'a fait un gros choc de lire... quand elle rapporte des propos qu'on peut lui dire. En tout cas, même si tout n'est pas bon à prendre dans ce livre, je pense qu'il y a au moins ça, ces chocs-là qui peuvent être utiles pour sortir de nos grossophobies.
Mais en vrai, si je peux dire un truc, moi, je trouve que c'est un chouette livre, vraiment. Déjà, elle raconte son histoire, donc c'est son vécu, et bon, je pense que personne ne peut dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste son histoire. Et après, elle fait ce travail assez remarquable de politiser son histoire et d'en dégager des choses. Et je pense en effet que c'est un très bon livre pour rentrer dans le sujet. Après, je ne suis pas d'accord avec tous les positionnements de Gabrielle, mais ça n'empêche que je pense que c'est une voie importante pour notre lutte. Et voilà.
Du coup, moi, je peux vous recommander Grossophobie de Solène Karoff. Donc, comme je disais, c'est un livre de sociologie, c'est pas très long, c'est 200, 250 pages. C'est très abordable et elle décrit très bien l'état de la situation en France, je trouve. Donc, elle fait un état des lieux français. Il y a beaucoup de témoignages de personnes. Et puis, elle parle vraiment de toutes les sphères de la vie des personnes et comment... la grossophobie peut les impacter dans leur vie privée, dans leur vie familiale, pendant l'enfance, au travail, chez le médecin. Et puis, elle termine effectivement avec une partie sur le fat activisme, que je n'ai pas encore lu, mais qui fait bien remonter les choses dans les années 60-70 aux États-Unis. Donc, voilà, sur un état des lieux de la situation. Si vous avez envie de creuser, je vous recommande cette lecture.
Merci. Et Pelfine, si tu veux clore avec une dernière recommandation, tu as la parole.
Ouais, même deux. C'est bah possible, oui, vas-y. Mais je fais vite. Moi, j'avais envie de recommander un compte Instagram qui s'appelle Fat Ethnographie. Et donc, c'est une fat activiste, une militante, qui... on fait un peu la même chose sur nos comptes Instagram, mais elle est chercheuse, donc elle a une rigueur que je trouve vraiment très appréciable. Vraiment, je trouve qu'elle fait du très bon travail de vulgarisation, de concepts importants pour poser un autre regard sur la grosseur, mais aussi sur la médecine, tout ce dont on parlait avant, la neutralité, tout ça. Enfin, je la trouve passionnante, voilà. C'est vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des trucs qui me chamboulaient autant. Voilà. Et après, en truc un peu plus mainstream, j'avais envie de recommander une série qui s'appelle My Mad Fat Diary. Oh. C'est une série sur une adolescente qui est grosse et qui a aussi une santé mentale fragile. Mais c'est une série que je trouve très chouette parce que certes, donc elle s'appelle Ray, le personnage principal, et elle est grosse, mais elle n'est pas que grosse, elle a aussi des amis, elle va être au centre de Love Interest. Enfin, je trouve que ça parle avec justesse de la grosseur, de ce que est dureté de la grossophobie, mais en même temps, ça raconte plein d'autres choses. Enfin, voilà, c'est une vraiment, vraiment très, très bonne série sur le sujet. Voilà.
Trop bien. J'ai très envie d'aller la commencer tout de suite.
Elle est incroyable.
Ok.
C'est la fin de l'émission Les Arpètes. Merci de nous avoir écoutés. Merci à nos trois invités, Pelfine, Lise, Leslie. Merci à Léo qui a sur, comme toujours, la partie technique de l'émission et le recrutement de nos invités sur cette émission d'ailleurs. Merci beaucoup à toi. Toutes les références sont dispo sur la page d'émission. Toujours sur prune.net et on se retrouve le samedi 2 mars pour une prochaine émission qui sera sur le sujet du journalisme. On vous en dit pas plus, ce sera la surprise. On se quitte sur Corazon Caramello de November Ultra et à bientôt sur Les Arpètes. Bye bye.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Corazón blando caramelo. Merezco amores de verdad. Un beso dulce en la mañana y que me mire por la ventana cuando yo salgo a pasear. Hey. Como yo quiero, de los que no hacen sufrir más, un amor del verdadero, que sea un sueño muy real, un amor como el primero.